Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Dans les aventuriers de l'étrange, je vous l'ai dit dans le sommaire de cette émission, nous allons retrouver Jean-Jacques Charbonnier, qui est docteur en médecine, qui est anesthésiste réanimateur, en fonction, puisqu'il travaille dans une clinique du côté de Toulouse. Jean-Jacques Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également auteur d'ouvrages concernant les NDE, les expériences de mort imminente. Et puis, j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau, car vous allez sortir, publier un ouvrage, c'est courant janvier. Je crois, hein.
Oui, c'est ça, La mort décodée.
Très bien.
Aux éditions Exergue, donc c'est une branche des éditions Mitre-Daniel.
Parfait, donc on en reparlera dès que ça arrivera chez les libraires. Je suis en compagnie de Pierre Massias du site psylande.org et également de Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International. Alors, Jean-Jacques Charbonnier, je vous ai invité parce que vous m'avez demandé de faire un appel à témoins pour procéder à une étude relative à certains cas spécifiques d'expérience de mort imminente. Vous en êtes arrivé à étudier cela parce que vous-même, vous avez vécu, non pas une expérience de mort imminente, mais en tant qu'anesthésiste réanimateur, vous avez vécu, dans le cadre de votre métier, une expérience extrêmement troublante. Avant de faire l'appel à témoins, est-ce que vous pouvez nous la rappeler en quelques mots ?
Oui, mon expérience initiale, d'ailleurs, qui m'a conduit à faire toute cette démarche, c'est une expérience qui s'est passée en SAMU. Ça s'est passé donc il y a bien longtemps de ça, il y a plus de 20 ans maintenant. Mmh. J'étais seul médecin donc à gérer un accident grave, un accident que l'on voyait d'emblée grave, puisqu'il y avait beaucoup de monde. C'est comme ça, on refait pas les hommes. Quand quelque chose est grave, eh bien, il y a des gens qui se... s'attarde et qui regarde, quoi, des badauds. Mmh. Et là, j'ai senti déjà que ça n'allait pas très bien chez moi, que j'étais un petit peu débordé, je dirais. Je me suis dit, c'est pas un métier qui est fait pour toi. Et puis, le pompier me dit, il faut aller dégager quelqu'un dans un véhicule qui était en contrebas, donc quelqu'un qui était incarcéré, comme on dit.
Oui.
J'avais déjà vu sur le bord de la route deux cadavres, donc... recouvert d'un drap blanc, donc je me sentais de plus en plus mal. Et puis, j'ai pénétré dans ce véhicule avec toute une émotion difficile à transmettre avec des mots, mais quelque chose de très, très, très troublant.
Mmh,
et je suis arrivé donc auprès de ce jeune homme qui avait une vingtaine d'années et je devais le perfuser rapidement parce que il était incarcéré et quand on est comme ça écrasé par des tôles, eh bien rapidement on perd du sang et on meurt d'hémorragie interne si on n'arrive pas à rapidement donc remplir les vaisseaux pour éviter que la pompe cardiaque se désamorce.
Mmh.
Et là je dois dire que à cause de mon incompétence, mon inexpérience de l'époque, eh bien je ne suis pas arrivé à perfuser ce jeune de 20 ans qui est mort devant moi. J'étais à quelques centimètres de son visage et ça c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Je dirais. Donc, j'ai vu la mort s'installer dans ce visage, j'ai vu la pupille de ses yeux qui se dilatait progressivement, j'ai vu, senti une indicible lumière qui partait de ce regard, et j'ai senti la vie s'échapper. Et je l'ai senti physiquement, c'est-à-dire que j'ai senti un souffle de vie, je ne trouve pas d'autres mots pour décrire ça, un souffle de vie qui s'échappait par la fontanelle et qui m'a donc frôlé le visage sur la droite. C'était quelque chose de terriblement vivant et de terriblement joyeux aussi. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, de dire que c'était vivant et joyeux dans ces circonstances, et pourtant c'est ça, j'ai ressenti comme ça. Et j'ai dit ça y est, j'ai compris comment on fonctionnait. On était finalement un véhicule terrestre habité par une entité qui nous quittait au moment de la mort. Et cette perception de la mort ne m'a plus jamais quitté. Et c'est pour ça que je fais peut-être toute cette démarche auprès donc des associations, etc. Parce que je crois que c'est un formidable espoir d'après-vie de dire qu'on est constitué d'un corps physique habité par une entité. C'est un petit peu comme les expérienceurs qui ont une certitude d'une vie dans l'au-delà. Eh bien moi j'ai cette certitude depuis de vie dans l'au-delà, depuis que j'ai vécu cette expérience extraordinaire. Alors, bon.
Alors ça, entendons-nous bien, Jean-Jacques Charbonnier, c'est votre analyse, évidemment, c'est votre perception des choses.
Tout à fait.
Qui, en aucun cas, peut être établie comme un fait scientifique, on est d'accord?
Tout à fait exact.
Bon.
C'est tout à fait exact.
Donc, en revanche, parce que vous avez écrit des ouvrages, vous faites de nombreuses conférences concernant les expériences de mort imminente, est-ce que... lors de ces différents périples, parce que vous allez dans toute l'Europe, vous êtes allé au Canada il n'y a pas longtemps encore donner des conférences, est-ce que parmi toutes les personnes devant qui vous parlez, il y en a quelques-unes qui vous ont dit bah, écoutez, il m'est arrivé la même chose?
Eh ben oui, c'est là l'originalité donc de ces témoignages. C'est pour ça que je veux faire absolument cette étude qui s'appellerait donc la NDE côté soignant.
Oui.
Parce que, comme vous venez de le dire, j'ai donné beaucoup de conférences sur les NDE en France et à l'étranger. Pour donner une petite idée, rien qu'en 2007, j'aurais donné plus de 40 conférences sur les NDE. Donc ça fait que je vois beaucoup de monde. Mmh. À la fin de mes conférences, beaucoup de soignants et de médecins travaillant auprès de personnes en état de mort imminente qui ont eu les mêmes expériences que les miennes. Et c'est ça qui est troublant. Et c'est à partir de ça que je veux faire cette étude. Les mêmes expériences que les miennes, c'est-à-dire quoi? C'est deux choses essentielles. Premièrement, c'est ce dont nous venons de parler à l'instant, la sensation tactile ou visuelle de sortie de corps lors d'un décès ou d'une NDE ou après un massage cardiaque. Et deuxièmement, c'est la réception d'informations par transmission de pensées émergentes du comateux ou de l'expérienceur vers le soignant. Il est classique d'avoir les témoignages de télépathie des expérienceurs qui devinent les pensées des gens qui les entourent, ça on le sait depuis longtemps, mais dans le sens inverse, c'est plus rare, ou du moins c'est du domaine du non-dit, parce que les soignants ou les médecins ont peur de parler de ça. Ils ont peur de parler de ça, mais pas un médecin réanimateur qui a vécu la même expérience qu'eux. C'est pour ça que je pense que je suis la bonne personne pour faire ce genre d'études. On va pouvoir se confier à moi, je pense. Alors je n'ai qu'un seul regret là-dedans, c'est que j'ai laissé échapper un grand nombre de témoignages oraux, parce que toutes ces personnes qui viennent me voir à la fin des conférences me disent « Mais oui, on se tutoie, hein, entre soignants, c'est comme ça, bon, il y a une espèce d'esprit corporatiste, tu as vécu ça, mais moi aussi je l'ai vécu, les expériences sorties de corps, je les ai eues moi aussi, mais j'ai jamais osé en parler. » Alors les expérienceurs, c'est vrai, ils ont des difficultés à s'exprimer là-dessus.
Les expérienceurs, c'est ceux qui ont vécu, hein.
Oui, c'est ceux qui ont vécu les expériences de mort imminente, mais les témoins des expérienceurs, encore plus, parce qu'ils sont soignants, ils ont des responsabilités, ils ont une crédibilité à avoir, et c'est vrai que dire qu'on a vu ou qu'on a perçu une entité sortir son corps, ça fait un petit peu farfelu. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait un petit domino qui bouge en bout de chaîne, et après ça s'enchaîne. Je crois que ces témoignages-là, je vais les avoir. Bon, j'ai déjà quelques témoignages écrits, une petite dizaine seulement, c'est pas beaucoup, avec les noms des médecins, etc. Mais il m'en faudrait au moins 10 fois plus pour faire une étude qui tienne la route.
Ah
quoi.
Oui, ça, hein, je suis tout à fait d'accord.
Et puis, après, quel est l'intérêt de faire cette étude? Ben, c'est comme Moody l'a fait en 75, il recueille des témoignages d'expérienceurs et il dégage un certain nombre d'invariants des observateurs de ces NDE.
C'est-à-dire les lignes générales, les lignes communes, quoi, en quelque sorte.
Voilà,
hein, c'est ça.
Les lignes communes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Par exemple, cette sortie de corps, cette sensation de sortie de corps, est-ce qu'elle est plutôt physique, est-ce qu'elle est plutôt visuelle, est-ce qu'elle se localise plutôt au niveau de la fontanelle, hein, le septième chakra des yogis, là, ou au niveau de l'ombilic, au niveau des pieds, quel est le pourcentage des perceptions, les circonstances, la rapidité de ces sorties, est-ce que ça dépend de la corpulence des corps réanimés, etc. Et en ce qui concerne la télépathie, c'est pareil. Par exemple, la télépathie, il semblerait qu'il y ait un système d'alerte qui soit mis en route dans ces cas-là. On sait que les expérienceurs sont capables d'avoir des prouesses extraordinaires au niveau des perceptions, la vision à 360 degrés, à travers la matière, etc. Ils ont aussi des possibilités télépathiques, dans le sens où ils peuvent recueillir donc les pensées de ceux qui les entourent, que ce soit les chirurgiens, on le sait déjà.
Ce qu'a vécu Jean Morzel, d'ailleurs, entre autres.
Jean Morzel, devinait ce que pensait l'infirmière au moment où elle a eu son malaise, ce que pensait le chirurgien, etc., avec exactitude. Mais on peut aussi imaginer que l'expérienceur soit capable non seulement de recueillir des pensées, mais aussi d'en émettre dans un espèce de système d'alerte. Par exemple, j'ai témoignage d'une infirmière qui, passant devant un box de réanimation dont elle n'avait pas à s'occuper du tout, ouais. Eh ben, elle s'est sentie appelée dans ce box. Elle s'est sentie appelée et effectivement, il y avait un comateux qui était en train de mourir puisque sa voie veineuse sous clavière était débranchée. Donc, il était en train de faire une embolie gazeuse. Et elle a dit, j'ai été appelée par ce patient. Elle ouais. a eu cette sensation.
Mais ça ne se, cette, alors je, vous avez employé un terme technique, je suis incapable de le répéter, mais cet incident était invisible de l'extérieur. Je veux dire, à moins de tout se pencher fait. Sur le malade et d'aller voir ça précisément, il aurait été impossible, en passant dans le couloir, de voir qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi.
Tout à fait impossible, puisque c'était un box. En plus, elle ne devait pas s'occuper de ce box-là.
Ouais, ouais, ouais.
Une autre infirmière, pour donner un autre exemple de ce style-là, on avait fini un nursing de patient, c'est-à-dire un nursing, c'est-à-dire on fait la toilette du patient, donc on le retourne dans tous les sens,
ouais.
Et elle a eu une idée obsédante qui lui a fait retourner le patient, et sous le patient, il y avait donc un objet contendant, à savoir une seringue avec son aiguille qui était en train de blesser le comateux.
D'accord.
Et ça peut être même à distance. J'ai le témoignage d'une maman qui faisait la vaisselle dans sa cuisine et qui d'un seul coup a eu une crise de larmes très violente. Elle se demandait pourquoi, elle avait aucune raison d'être triste ou quoi. Et elle a voulu appeler son fils. Elle s'est sentie appelée par son fils. Et elle apprend en téléphonant à son fils que son fils venait de faire donc un coma grave secondaire à un accident vasculaire cérébral. Et elle dit, c'est mon fils qui m'a appelé. Elle a ressenti un appel télépathique de son fils.
Oui.
Donc il ne serait pas surprenant d'apprendre que des expérienceurs étant capables d'avoir toutes ces perceptions et toutes ces cognitions démultipliées soient aussi capables d'avoir, dans certaines circonstances, oui. des possibilités télépathiques d'alerte.
Oui, pour parler au vivant, entre guillemets.
Voilà,
quoi.
Ouais. Pour lancer des messages.
Oui, juste une pause. Renaud Évrard, que pensez-vous de cette hypothèse? C'est vrai qu'on a eu pas mal de cas d'expériences de mort imminente qui se sont exprimées ici aux Aventuriers de l'Étrange, que vous avez vous-même écouté. Ils entendent les informations lorsqu'ils sont hors de leur corps, de ce qui se passe à l'intérieur de la chambre, à l'intérieur de l'hôpital, pour ceux qui sont hospitalisés. Mais on peut émettre l'hypothèse également qu'ils peuvent également peut-être transmettre, puisqu'ils reçoivent des messages, ils peuvent peut-être en transmettre. Qu'en pensez-vous, Renaud Évrard ?
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Raymond Moody en parlait encore au congrès de Martigues. Ça s'appelle aussi EMI empathique ou par empathie. Mais il y a un petit problème, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une seule personne qui peut avoir des perceptions de type télépathique ou est-ce que tout le monde peut en avoir ? Et dans ce cas-là, c'est la soignante qui passe devant. Mmh. Elle peut être aussi alertée pour elle-même parce que son travail, c'est de soigner les gens et de les aider. Et donc, elle peut avoir cette idée elle-même, même si, dans plusieurs cas, les personnes ont l'impression d'être appelées par l'extérieur.
Ouais, ouais.
Bon, donc voilà. Là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les recherches, les expériences de mort imminente débarquent vraiment sur le terrain de la parapsychologie. Et peut-être qu'avec des outils et des méthodes employées par les parapsychologues, il y aura quelque chose à creuser. Un lien entre les deux domaines qui justement a été un peu dissimulé pendant un certain temps.
Mm-hmm.
Ce que je crois,
Jean-Jacques.
Pardon. Ce que je crois, ce qui est important d'avoir, c'est un autre éclairage de ces expériences de mort imminente qui ne soit pas donné que par ceux qui les vivent, mais aussi par ceux qui les observent. Et c'est vrai.
C'est-à-dire le personnel soignant, quoi.
C'est-à-dire les gens qui travaillent dans les unités de SAMU, de soins intensifs, de réanimation.
Mmh.
Et paradoxalement, les gens qui s'intéressent au NDE, il y a souvent des médecins, mais ce sont des gens qui arrivent à distance de l'événement pour recueillir les témoignages. Mais il n'y a pas grand monde au niveau des réanimateurs, des médecins réanimateurs et des soignants qui sont sur le terrain,
oui.
Et donc qui s'occupent tous les jours d'états de mort imminente, comme c'est le cas pour moi depuis plus de 20 ans maintenant,
oui.
Qui sont sur le terrain et qui sont concernés donc par ces phénomènes-là, mais qui n'osent pas en parler, encore moins, je dirais, que les expérienceurs. Donc j'ai véritablement l'impression d'avoir soulevé quelque chose de nouveau qui va permettre un éclairage tout à fait différent de ces expériences de mort imminente. Et en fait, on se rend compte que tout est corroboré par rapport aux témoignages des expérienceurs eux-mêmes. Et ça recoupe parfaitement ce qu'ils ressentent. Et si certains ont eu des phénomènes télépathiques, comme je le disais, dans un sens, ils n'ont pas eu la notion d'insuffler des idées ou des attitudes à avoir dans l'autre sens, ça peut être intéressant aussi de savoir du côté récepteur comment ça s'est passé. Donc moi j'ai eu, en ce qui me concerne, des expériences, alors sais bien que ça fait un petit peu paranormal de dire ça comme ça, mais je crois que c'est à nous, scientifiques, à rétablir les lettres de noblesse du mot télépathie, parce que ça fait un petit peu saltimbanque et autres charlatans, mais et il faut bien appeler un chat un chat. Quand il y a une transmission de pensée d'un cerveau à un autre, d'un récepteur à un émetteur, eh bien, je pense que ça s'appelle de la télépathie. Donc,
c'est le terme désigné, oui.
Oui, voilà. Donc moi, par exemple, j'ai eu plusieurs expériences télépathiques avec des comateux. Un comateux m'a fait faire un geste de réanimation que je n'avais pas du tout l'intention de faire. Et à son réveil, il m'a dit, mais c'est moi qui vous ai... Il m'a reconnu d'abord, alors qu'il avait les yeux clos. Et il m'a dit, c'est moi qui vous ai fait faire ça. Et c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Une autre fois...
Et lui, quand il s'est réveillé, enfin, quand il est sorti de son coma... c'est ce qu'il vous a dit. Je veux dire, il a été clair là-dessus. C'est moi qui vous ai fait faire ce geste.
Oui, en fait, c'était pas un homme, c'était une femme. Hein,
d'accord.
C'était une femme qui était donc intubée et donc qui avait un bouchon de mucus qui lui obturait la sonde. Et je dis que c'était pas logique de le faire parce que l'infirmière qui était là et présente à son chevet avait fait cette manœuvre. Elle m'assurait qu'elle avait fait.
Ouais,
et moi, j'avais une idée obsédante qui me disait, mais si, il faut m'aspirer cette sonde. Et donc, à son réveil, ce qui est logique, hein, on essaie toujours d'aspirer une sonde quand il y a un problème d'oxygénation, on pense à un obstacle tout de suite.
Oui, oui, oui,
et là, donc, à son réveil, elle me reconnaît et elle me dit, mais c'est vous, docteur, qui m'avez sauvé la vie et c'est moi qui vous ai dit d'aspirer cette sonde. C'est moi qui vous le disais. Elle ne pouvait pas me le dire. Elle avait une sonde à travers les cordes vocales. Elle ne pouvait pas parler.
C'est évident. Ouais,
bien sûr.
Ouais, ouais.
Mais elle me l'a dit par télépathie. Elle m'a vu. Parce qu'elle avait, elle m'a vu avec autre chose que ses yeux. Donc ça nous bouleverse quand on sait qu'on peut voir avec autre chose que ses yeux, avec une acuité démultipliée, vision à 360 degrés, etc.
Oui, oui. Donc, mais dites-moi, Jean-Jacques Charbonnier, bon, vous en parlez volontiers, parce que c'est l'objet de votre étude, vous cherchez depuis plusieurs années dans ce registre-là, mais entre... collègues, est-ce qu'on en parle volontiers et est-ce qu'on se tait quand on doit en parler en public?
Ben, on en parle de plus en plus, à telle enseigne que l'endroit où je travaille, donc à Toulouse, dès qu'il y a un problème un petit peu de ce style-là, on m'appelle et on me dit, tiens, j'ai un patient qui est sorti de son corps. Ben, ça fait plus rigoler. Alors qu'avant, ça faisait rigoler.
Ouais.
C'est vrai que quand on a un patient qui vous décrit non seulement son opération, mais l'opération qui a eu lieu à côté, eh ben, on se dit qu'il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne la comprend pas qu'elle n'existe pas.
Tout à fait.
Donc c'est un peu un raccourci facile de dire, bon, parce que ça arrange tout le monde, c'est des bêtises, et puis on n'y croit pas, et puis c'est tout.
Ouais.
Non, je crois qu'il faut, en tant que scientifique, on se doit d'écouter et d'essayer, dans la mesure du possible, d'analyser les phénomènes et de donner une explication. Mais l'explication n'est pas toujours là. Et je pense qu'on n'est pas encore sur le point de la trouver en ce qui concerne les espérances de mort imminente.
Je suis d'accord avec vous. Oui, oui.
Voilà.
Jean-Jacques Charbonnier, juste un instant. Pierre Massias, une réaction.
Oui, bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir.
Cette idée de faire témoigner aussi bien les gens qui accompagnent, enfin qui sont présents au moment du NDE que la personne qui vit la NDE, ça me fait penser aussi aux fameuses expériences à la fameuse demande de Camille Flammarion à son époque, où il avait fait astronome vulgarisateur de l'astronomie par excellence, qui touchait un panel de un public extrêmement large, et qui un jour a demandé aux gens de témoigner d'apparitions, de phénomènes qu'ils auraient vécu au moment d'un décès de proche.
Oui.
Ce qui lui a donné l'occasion de recueillir une quantité d'informations incroyables et de catégoriser tout ça dans des parties, apparition avant la mort, apparition au moment de la mort, apparition après la mort.
Oui.
Vous vous trouvez un petit peu dans cette situation-là, où vous avez, enfin, ça, votre démarche est très intéressante dans la collecte, la possibilité de collecte de nouvelles données.
Oui, et d'informations, vraiment.
D'une quantité de données importantes et de nouvelles données en elles-mêmes, puisque effectivement, il me semble bien que les NDE n'ont pas été encore abordés sous cet angle-là.
Ouais, ouais. Jean-Jacques Charbonnier, pour que l'on comprenne un petit peu l'étendue du boulot que vous avez à faire, parce que là c'est le début d'un travail évidemment. Hein.
Oui, là c'est simplement un appel à témoins.
Oui, oui, tout à fait. Mais il vous faut combien de témoignages pour commencer à avoir quelque chose d'un peu dense, d'un peu solide?
Ah ben là, là, il m'en faudrait le plus possible, je dirais.
C'est-à-dire, je veux dire par là, 100, 150, 50 suffisent
Ah, ben je pense qu'il faut dépasser la centaine pour avoir quelque chose de consistant, quoi. Hein. J'étais, comme vous le disiez en début d'interview, avec mon ami Gilles Bédard à Montréal.
Oui.
Donc, qui est le président
de Yance Québec, voilà. Et qui était notre invité dans Les Aventuriers de l'étranger, d'ailleurs. Oui, tout à fait.
Vous aviez reçu. Mm-hmm. Et qui est donc Yance, il faut la rappeler, International Association Near Death Studies.
Oui.
Donc, une association qui étudie les expériences de mort imminente, comme c'est le cas en France et aux États-Unis. Mm-hmm. Et Gilles Bédard est tout à fait donc favorable à cette étude. Il va relier cette information d'appel à témoins sur son site canadien Yance Québec. Le nouveau site va être refait en janvier 2008. Il y a un certain nombre de sites qui me donnent un coup de main sur ce sujet, donc des sites internet qui s'intéressent au NDE comme Autre Vie, Notre Expérience, NDE Intégration, etc.
Mmh, ouais.
Je crois que, moi je suis de bonne volonté, je crois que c'est vrai qu'il y a des différences d'approche, etc., à travers les différentes associations, mais je crois que sur un coup comme ça, quand on a quelqu'un de bonne volonté, il faut relayer cette information, parce que moi je suis prêt à faire ce travail parce que ça m'intéresse, ça me passionne. De toute façon, c'est pas par hasard si je choisis le métier d'anesthésiste réanimateur. Je crois que les hasards, c'est discutable. Moi je crois qu'il y a, je dirais pas un destin, mais il y a toute une logique imbriquée donc dans une vie, et cette chose qui arrive en ce moment-là, elle n'est pas le fruit du hasard.
Mmh, mmh,
donc
mmh.
Je crois que la NDE du côté soignant, je suis tout à fait donc un acteur privilégié pour faire cette étude, parce qu'encore une fois, je crois que d'abord il y aura la crédibilité des témoignages, ce seront tous des soignants, des médecins, etc.
Oui, des scientifiques, donc voilà. Oui, tout à fait.
Donc des scientifiques. Et puis il y a le fait qu'ils vont pas aller se confier à n'importe qui. Je crois que si c'est un des leurs qui a vécu la même chose, la même expérience qu'eux, ils vont volontiers se confier, enfin je crois. Mmh. En tout cas, ils sont venus spontanément, et là, véritablement, j'espère rattraper le coup, parce que je râle de ne pas avoir pris les coordonnées au fur et à mesure de mes conférences, mais il y en avait chaque fois. Mmh. Il y avait chaque fois un soignant qui me disait qu'il avait fait un massage cardiaque, qu'il avait senti un souffle partir, un c'était par les pieds, l'autre c'était par l'ombilic, l'autre par la fontanelle, etc. Ou des impressions lumineuses, alors est-ce que c'est des impressions, est-ce que c'est des hallucinations? Après ça reste à déterminer dans les mécanismes. Mais en tout cas, recueillir les témoignages de ceux qui ont vécu ça, je crois que c'est un travail qui n'a pas été fait, et c'est un travail important et tout à fait novateur les expériences de mort imminente.
Mmh. Je vous remercie Jean-Jacques Charbonnier, c'était très intéressant cet appel à témoins. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, comme ça, se faire des rendez-vous régulièrement, savoir où vous en êtes, et puis de toute façon, on se retrouvera en janvier pour parler de la sortie de votre livre. Je rappelle votre site internet Jean-Jacques, avec un trait d'union entre les deux, jean-jacques.charbonnier.fr, sur un moteur.
Ça c'est mon email.
Ah,
oui, alors
c'est
www.charbonnier.fr.
Ah voilà, très bien.
Mais
d'accord.
Sinon, ceux qui se sentent concernés par cette étude, ils peuvent m'écrire donc au service de réanimation de la clinique Saint-Jean-Languedoc, 31400 Toulouse, ou alors par email au Jean. Jean-Jacques.charbonnier@oanazou.fr ou alors par fax au 05 61 03 51 81. Je ne donne pas mon
téléphone
à l'antenne. Ouais. Je l'ai fait une fois, j'ai failli divorcer. Ça prouve que vous avez de l'audimat.
Donc, non, en revanche, ce qu'on va faire, Jean-Jacques Charbonnier, c'est que sur le site psylante.org et sur le site Sud Radio, on va mettre un lien pour pouvoir vous envoyer directement par mail les informations. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Les gens pourront vous contacter de manière tout à fait simple. Je rappelle également que vous allez donner une conférence, ce sera le jeudi 29 novembre à 20h30 sur les expériences de mort imminente, justement, où il y aura à vos côtés Jean Morzel, qui a vécu donc une expérience de mort imminente. Ce sera à la clinique Saint-Jean-Languedoc à l'auditorium, clinique Saint-Jean-Languedoc, le jeudi 29 novembre à 20h30. Ça aussi, l'information sera sur le site psylande.org et également sur le site sudradio.fr. Merci beaucoup Jean-Jacques Charbonnier.
Merci beaucoup Louis.
Et bon boulot, hein. C'est pas le travail qui manque, hein.
Merci, mais c'est un plaisir. plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Renaud Évrard et Pierre Mathias, vos conclusions concernant ce travail que veut mener à bien Jean-Jacques Charbonnier. Renaud Évrard d'abord.
Ben, c'est encore quelque chose de nouveau à explorer et je suis tout à fait partant pour mettre moi aussi l'annonce sur mon petit blog et si tout le monde s'y met, on va sûrement trouver des gens, quoi.
Oui, 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 oui. Ouais. Pierre Mathias.
Oui, ben je vais être tout à fait de l'avis de Renaud. C'est un appel qu'en fait il faut appeler les gens à répondre appel.
Ouais.
Ça va donner des indications, des informations nouvelles. Il faut espérer de pouvoir en tirer. Justement, comme je disais tout à l'heure, on est dans la partie médicale.
Ouais. En plus, ce ne sera que des scientifiques ou des gens proches du milieu médical qui vont témoigner. Donc, ça donnera peut-être un peu plus de poids à leur témoignage, peut-être. Le fait que ce soit des anesthésistes, le fait que ce soit des docteurs, le fait
évidemment,
que ce soit...
Évidemment, ils sont plus à même de décrire des sensations physiques.
Ça va être intéressant.
Ce qui se passe dans la salle, dans l'hôpital à ce moment-là.
Évidemment. Pierre Mathias, Renaud Évrard, une pause et on va parler de SOS Psy développé par l'Institut Métapsychique International. Et là, ce sera Renaud Évrard qui va être mon invité. À tout de suite.